Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Ali Rabé, adjoint au maire de Trappes, chargé de la jeunesse et des sports, militant de Génération et président de l'association Cœur de Trappes. Bonsoir.
Bonsoir.
Ali Rabé, demain, une partie de la France pourrait être bloquée par les Gilets jaunes, la fameuse journée du 17 novembre. Alors, certains rassemblements ont été déclarés aux préfectures, mais des actions non déclarées pourraient avoir lieu. Vous approuvez ce mouvement ?
Moi, j'estime qu'un mouvement citoyen, spontané comme celui-là, il n'a pas à être ni approuvé ni désapprouvé par les politiques. Et surtout, il n'a pas à être récupéré. Et ce qui m'inquiète dans ce que je vois depuis quelques semaines, c'est que des mouvements, notamment à l'extrême droite, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, s'évertuent à récupérer ce mouvement et à essayer de le manipuler. Il a surgi spontanément et à mon avis, il indique ce qu'est la colère des Français, l'exaspération des Français qui tous les jours vont au travail, voient leur pouvoir d'achat amputé, voient le gouvernement multiplier les cadeaux fiscaux aux plus riches. Quand je dis cadeaux fiscaux, c'est pas des cadeaux que le gouvernement et qu'Emmanuel Macron paye de sa poche. C'est de l'argent qu'il prend justement à l'ensemble des Français et qu'il donne à quelques milliers de familles fortunées, millionnaires, qui en bénéficient à travers notamment la suppression de l'impôt sur la fortune.
Mais 5 milliards d'euros. Officiellement, ça n'est pas le sujet de cette manifestation. Ali Rabé, c'est le prix du carburant.
On voit bien qu'un mouvement comme celui-là, il ne naît pas comme ça du jour au lendemain. Il naît parce qu'il y a une somme d'exaspérations successives. Depuis le début du quinquennat, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Français ont eu de très 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 nombreuses raisons d'être exaspérés. On voit que les pensions de retraite sont gelées, le SMIC n'augmente pas, les minima sociaux également. Et on constate par contre que quand il s'agit de faire des cadeaux encore une fois aux plus riches, on trouve l'argent, on mobilise de l'argent, 5 milliards d'euros par an, j'insiste parce que c'est tellement immense. Et là, pour aller financer des cadeaux comme celui-là, on va aller taxer notamment le carburant. Ceux qui en général consomment du carburant n'ont pas le choix, c'est pas par plaisir qu'ils le font, c'est souvent pour aller au travail. Ils ont souvent des distances importantes. On leur supprime les petites gares qui leur permettraient d'aller au travail sans utiliser de moyens de transport en utilisant de l'essence ou du diesel. Et les Français ont encaissé. Et en quelque sorte, cette augmentation, c'est, comme vous savez à l'époque, l'augmentation du prix du pain, la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
On est presque dans une émeute, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Vous parlez du prix du pain.
Bah, ça y ressemble parce que, je ne sais pas pour vous, moi je roule également. Je suis un peu condamné à rouler en voiture. J'habite Trappes, je vais de temps en temps à Paris. Je suis amené à faire des déplacements de banlieue à banlieue. Quand ça vous arrive, quand vous regardez les temps de transport, les conditions de transport, souvent vous êtes dissuadé d'utiliser les transports et vous prenez votre voiture. Et quand je fais mon plein et que j'arrive à 80-85 euros pour faire mon plein dans ma vieille C4, je me dis que je comprends le français smicard qui se retrouve pris à la gorge et qui ne comprend pas le sens de cette réforme. C'est une arnaque écologique. Moi, je suis totalement pour la transition écologique et je pense qu'il faut qu'on réussisse à sortir du diesel. Je pense qu'il faut qu'on réussisse à sortir des énergies carbonées. Je pense qu'il faut qu'on réussisse demain à sortir du nucléaire également. Mais quand on voit qu'on prend aux Français, à travers cette augmentation du prix de l'essence, 4 milliards d'euros supplémentaires, dont seulement 1 milliard, donc un quart, sera affecté à la transition écologique. Vous pouvez comprendre que les Français soient énervés. Vous pouvez comprendre qu'ils se sentent raquettés littéralement. Donc, il y a effectivement une forme de révolte populaire qui ne doit pas être instrumentalisé par les politiques.
Et ce que vous regrettez, finalement, c'est que rien ne soit fait pour inciter les Français à se passer de la voiture ?
Mais c'est exactement ce qu'il faudrait faire. Mobiliser tout l'argent disponible, y compris à travers de la taxation écologique, hein. Tout l'argent disponible pour financer la transition écologique et donner aux Français les moyens d'acheter des voitures électriques et surtout de prendre le train, par exemple.
Une taxation écologique, excusez-moi, je vous coupe la parole. Une taxation écologique qui viserait les industriels ou bien à nouveau les Français.
Prenons un exemple total. Bon, si on veut lutter contre le pétrole, contre le diesel, etc., c'est quand même auprès des grandes firmes multinationales qui génèrent des milliards de profits qu'il faudrait aller chercher de l'argent. On est d'accord. Prenez l'argent de Total et financez avec les voitures électriques. Financez avec la rénovation des lignes de chemin de fer. Des nouvelles lignes de chemin de fer. Cessons de fermer les petites lignes. Rappelez-vous la loi Macron, en tout cas les réformes Macron, qui aboutissent notamment à condamner les petites lignes considérées comme non rentables. Eh bien, Total fait 10 milliards de profits par an. Pourquoi le gouvernement ne taxe pas Total ? Alors mettez-vous à la place, encore une fois, du brave homme qui fait son plein, qui paye quasiment 100 euros pour faire un plein et qui voit que Total, 10 milliards de bénéfices, est exonéré quasiment de taxation. C'est absolument insupportable. Allons chercher l'argent là où il est.
Demain, samedi, vous mettrez votre gilet jaune, Ali Rabé ?
Non, pas moi, parce que j'estime, je vous l'ai dit tout à l'heure, que les mouvements politiques n'ont pas à s'en mêler, dans le sens, ils ont à comprendre et analyser la colère, et ils ont à faire des propositions. Ce que je m'évertue à faire, dans mon expression depuis tout à l'heure, et le mouvement Génération, Benoît Hamon, depuis quelques semaines, c'est faire des propositions. C'est éclairer les Français, notamment ceux qui manifesteront demain, pour leur montrer qu'il y a une autre voie. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que de laisser en face à face des Français exaspérés et un gouvernement totalement sourd. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'entend pas, qui n'écoute pas et qui essaie de dissuader les Français d'aller manifester en leur expliquant qu'ils vont prendre des coups de bâton. Donc je n'ai pas à juger de ce mouvement, je n'ai pas à le récupérer, mais j'ai à analyser les raisons de la colère et à proposer des alternatives.
Ali Rabé, Benoît Hamon a commencé hier un tour de France des quartiers. Première étape, Grigny, cette ville où des élus de toutes les tendances politiques avaient demandé au gouvernement l'égalité pour
Absolument.
Les quartiers populaires. D'abord, parlons de la démarche de Benoît Hamon dont vous êtes proche dans ces quartiers. Pourquoi ce Tour de France ?
Parce qu'il y a plein de solutions dans les quartiers qui s'inventent depuis des décennies. Les gens ont pris l'habitude d'être abandonnés par l'État. C'est un drame. Mais ils ont pris l'habitude de devoir se débrouiller par eux-mêmes. Donc on a des associations de quartiers, dans le sport, dans la culture, dans l'aide aux devoirs, qui se créent, qui émergent avec des habitants courageux, qui donnent de leur temps, de leur énergie, des gens qui ont réussi, des entrepreneurs, des commerçants, et qui inventent des solutions. Il y a aussi des élus locaux qui inventent des solutions. Vous citiez Grigny, moi j'étais avec lui hier en déplacement, et on est à la recherche de solutions qu'on pourrait dupliquer à l'échelle nationale, des bonnes idées. Et on veut mettre en avant ce qui marche. Il ne faut pas parler uniquement de ce qui ne marche pas, il faut parler également de ce qui marche. Si vous le voulez bien, par un exemple, je vais vous faire le lien entre notre débat précédent, la transition écologique, les conditions de vie des Français modestes, et le Tour des France de banlieue avec Grigny.
Volontiers.
Philippe Rio, le maire de Grigny, qui est un type formidable, qui se bat tous les jours pour sa ville, a inventé des solutions localement, qui sont absolument admirables. Un exemple, il a un grand quartier, je crois de mémoire, mais je risque de me tromper, que c'est la Grande Borne, où il a un certain nombre de locataires qui payent, en charge de chauffage, 30% de plus que la moyenne des charges sur le plan national. Parce que les logements, malheureusement, n'ont pas été réhabilités comme il le faut, et que les logements sont des passoires énergétiques. Donc imaginez des gens modestes qui vivent en HLM, et qui payent en charge beaucoup, beaucoup plus que ceux qui ont la chance d'habiter en HLM dans des quartiers plus modernes ou plus récents. Comment il a cherché à résoudre le problème ? Il aurait pu ne pas s'en mêler. C'est pas le travail d'un maire de s'occuper des charges locatives. C'est le travail des bailleurs. Il a décidé de s'en mêler. Il a travaillé avec les bailleurs, il a travaillé avec l'État, avec l'ADEME qui finance la transition énergétique. Et il a inventé une société publique locale, une entreprise publique, qu'il préside comme maire de Grigny, qui va passer de l'énergie carbonée, le fuel pour pouvoir chauffer les logements, à la géothermie. Donc il a installé une centrale géothermique. La géothermie, vous savez ce que c'est, on creuse le sol à 2 km au-dessous du sol et on va chercher en fait la chaleur naturelle qu'on a dans notre sous-sol profond pour chauffer justement la surface et les bâtiments.
À ne pas confondre avec le gaz de schiste.
Rien à voir avec le gaz de schiste parce qu'on ne fracture pas les sols et on ne maltraite pas les sols. Mais on creuse des trous relativement resserrés, qui ne sont pas d'immenses trous, on ne fait pas exploser le sol, mais on creuse quelques trous. Et en mettant des sondes qui descendent très très profondément au sol, on arrive à récupérer une chaleur, une quantité de chaleur qui peut ensuite chauffer les logements. Eh bien, en investissant comme ça 30 millions sur 20 ans, avec des financeurs qui mettent la main à la poche, le maire de Grigny a réussi à trouver une solution pour diminuer immédiatement de près de 30% la facture des habitants de ce quartier HLM. Donc tout de suite, on redonne du pouvoir d'achat aux habitants pour utiliser une solution 100% écolo. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de bois, on est sur une énergie totalement décarbonée. Et dans 20 ans, quand l'amortissement de la dette aura été complètement apuré, ce sera une baisse nette, définitive, pour les locataires, en dehors de la nécessité de payer l'entretien, des frais de chauffage. Vous voyez ce genre de solution ? C'est en faisant le tour des banlieues que Benoît Hamon veut les identifier, les porter au niveau national. Et on a besoin d'un État qui multiplie par 10, 20, 30, 50, 60, 100 les exemples comme ceux qu'on a pu identifier hier à Grigny.
Alors, dans ces quartiers populaires, Ali Rabé, généralement, l'abstention est très forte lors des élections.
Absolument.
Et quand les habitants se mobilisent, cela peut faire la différence. On se rappelle que ces quartiers ont permis à François Hollande d'être élu président de la République. Comment redonner envie aux habitants de ces quartiers de participer à la vie politique ?
Déjà, en leur donnant le pouvoir. Moi, je suis convaincu qu'il faut arrêter d'être dans une démarche paternaliste où on explique que les vieux partis auxquels plus personne ne fait confiance, de gauche ou de droite, vont demander à quelques personnes dans ces quartiers de coller des affiches et que demain matin, ils nous représenteront, ils porteront la parole des habitants de banlieue.
Vous n'êtes pas favorable à la démocratie représentative ?
J'y suis totalement favorable, je suis un élu. Je suis adjoint au maire de Trappes, je suis un élu issu de la démocratie représentative. Mais comme élu, comme adjoint au maire dans une ville populaire de banlieue, j'ai conscience de nos limites. une partie des solutions qu'on imagine dans une ville comme Trappes, on le fait avec les habitants. Moi, je ne peux pas tout seul, comme adjoint au maire, régler tous les problèmes de la jeunesse ou tous les problèmes du monde sportif. Sans les 43 associations sportives de la ville, je ne pourrais rien faire. Je ne peux pas être en même temps en train d'éduquer un enfant de 8 ans dans le club de foot, en même temps en train d'aider un gymnaste à sauter à la perche, ou en même temps à préparer, je ne sais pas, un cycliste à faire le Tour de France.
Donc
c'est pas possible.
Un élu de terrain, c'est un facilitateur.
Un élu de terrain, c'est quelqu'un qui met en contact des gens de sa ville qui veulent travailler ensemble. Un élu de terrain, c'est quelqu'un qui va chercher des moyens pour aider les initiatives locales. Un élu de terrain, c'est quelqu'un qui va inventer des solutions et mobiliser tous les acteurs. C'est ça un élu de terrain, et ça nous différencie souvent des élus sur le plan national. Pour certains, on le voit notamment dans la majorité En Marche de Macron, qui n'ont jamais été élus locaux et qui ne comprennent strictement rien ce qui se passe sur le terrain et qui prennent des décisions à Bercy qui n'ont aucune applicabilité sur le terrain avec les vrais habitants.
Donc c'est un retour aux sources sur la vie politique, c'est la vie de la cité où chacun serait acteur de sa propre vie.
Et où chacun prendrait le pouvoir. Moi je rêve d'associations qui prennent le pouvoir, qui s'organisent, qui montent les projets eux-mêmes. À Génération, on a pris une décision, c'est aussi pour ça qu'on engage le Tour de France des banlieues. On a décidé qu'on ne ferait pas une liste politique avec uniquement des apparatchiks politiques, y compris des gens comme moi qui sont des élus locaux, mais politiques. On a décidé qu'on ouvrirait notre liste à des personnalités de la société civile. On a fait un grand appel à candidature citoyenne pour les européennes, et on mettra dans notre liste, en éligible, bien placé, des hommes et des femmes qui ont fait leur preuve sur le terrain et qui n'ont aucun parcours politique, qui n'ont pas forcément de bagage politique, mais qui ont fait des choses, qui ont concrètement porté la parole des habitants, notamment des banlieues. Donc avec Benoît Hamon, avec beaucoup de personnalités qui ont fait leur preuve en banlieue, qui pour certains ont été des précurseurs de la marche pour l'égalité dans les années 80, on va faire le Tour de France, identifier les bonnes initiatives, identifier des porte-paroles et leur dire prenez le pouvoir. N'importe qui, parmi ceux qui nous écoutent d'ailleurs, peuvent là aller sur le site de Génération, déposer leur candidature en disant j'ai des choses à dire, je veux être candidat pour participer dans votre liste, à porter la parole des banlieues.
Alors j'ai vu que La République En Marche fait à peu près la même chose, a lancé des appels aux candidatures, et récemment le parti d'Emmanuel Macron a lancé un appel aux femmes en regrettant que les femmes ne soient pas assez candidates à la candidature. Est-ce que vous observez le même phénomène? Il y a moins de candidates que de candidats.
Oui, ça c'est une réalité. Malheureusement, les femmes ne sont pas assez spontanément candidates. Elles considèrent qu'il y a toujours un homme mieux placé qu'elles pour assumer la fonction. C'est faux. Évidemment qu'on a besoin, de toute façon, les listes sont paritaires, on a besoin de femmes, et les femmes sont au moins d'aussi bonne qualité, d'aussi bonnes candidates que les hommes. Donc il y a à lutter contre les stéréotypes sexistes qui font qu'on s'auto-censure quand on est une femme. Alors imaginez quand on est une femme de banlieue, si en plus vous êtes issu d'une minorité visible, comme on dit, alors là vous n'imaginez pas une seule seconde que le système politique vous fera de cadeau, ce qui est vrai. Nous, on s'attachera à porter des candidatures qui dénoteront avec le paysage politique traditionnel. Il y en a marre de voir, je vous le dis clairement, des vieux mâles blancs, pour reprendre l'expression de Macron, mais il y en a marre de voir que la politique est confisquée par une classe politique prédatrice, vautour, de gens de 60 ans qui considèrent que les mandats leur appartiennent et qu'ils ne passeront jamais la main aux nouvelles générations.
Alors vous-même, Ali Rabé, vous avez lancé le 8 novembre dernier une association appelée Cœur de Trappes, avec le souci, si j'ai bien compris, de créer des passerelles, des rencontres entre les habitants de votre ville qui se croisent mais ne se connaissent pas. Pourquoi cette association ?
Parce que moi, je suis un élu de terrain, vraiment. Je n'appréhende mon poste, ma fonction, que comme une occasion de rencontrer les trappistes et de les soutenir, de les aider au quotidien dans leurs projets. Et j'ai eu la chance, en traînant mes guêtres et en usant mes fonds de culotte dans les rues de Trappes depuis maintenant 6 ans, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens formidables. On dit qu'en banlieue, les gens ne s'engagent pas. On dit que les jeunes sont désintéressés par la vie citoyenne. Il n'y a rien de plus faux. Moi, j'invite ceux qui s'interrogent à me suivre dans ma ville. Je leur présenterai une série d'individus formidables de tous les âges qui font vivre la ville au quotidien, encore plus que les élus, hein, et qui font des choses, mais souvent ne se connaissent pas, ne se croisent pas. Ce qui manque dans ce genre de territoire, c'est les carrefours pour qu'on se croise. Chacun arrive dans sa propre voie, avec sa propre histoire, ses propres combats. Mais en mutualisant nos forces, on peut faire des choses formidables. Alors, toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer avec mon statut d'élu, avec ma fonction d'élu et puis de personnalité politique engagée auprès de Benoît Hamon, qui était notre député, ça fait des années que je rêve de les mettre ensemble. Je les mets en contact parfois, 2 par 2, 3 par 3, en fonction des projets des uns et des autres, mais je rêvais de les mettre tous dans une salle et de faire une espèce d'appel citoyen, venez, rejoignez-nous et montez ensemble, rêvez ensemble la ville de demain. Comment Trappes doit évoluer dans les 10, 15, 20 prochaines années? Comment là, maintenant, tout de suite, dès demain, on peut monter des projets qui changeront la vie des gamins de Trappes qui grandissent ici?
Dès demain. C'était là que vous êtes en train de dire que ce n'est pas la peine d'attendre les élections.
Exactement, vous avez tout compris.
Tout de suite.
Vous avez tout compris. J'aurais pu faire comme beaucoup d'hommes et de femmes politiques, attendre 3 mois avant l'élection, aller au marché, distribuer des tracts et ramener ma trombine. Bon, déjà, les gens de Trappes me croisent tous les jours à Trappes. Hein, et ça, vous me trouvez. Et c'est un bonheur de travailler avec eux tous les jours. Mais c'est surtout que pour moi, la politique, c'est pas les élections. On ne peut pas résumer la politique à des élections. La politique, c'est les interactions quotidiennes entre les hommes et les femmes qui tiennent la ville de Trappes. Et donc, je considère que les actions n'attendent pas les élections. Comme élu, déjà, on bosse au quotidien. Mais cette force collective qui s'ignore dans une ville comme Trappes, pour la réunir, il faut le faire très en amont des élections et très en aval des élections. Une élection, c'est un seul jour. Hein. La vie des gens à Trappes, c'est 365 jours par an.
Vous avez des exemples de projets qui pourraient être mis en œuvre très rapidement à l'Irabé, dans votre ville de Trappes?
Je peux vous en donner beaucoup. D'ailleurs, pour préciser un peu la forme de cette rencontre que j'ai souhaité organiser à Trappes, elle était assez innovante. Moi, quand j'ai fait mon appel, je m'attendais à avoir 30-40 personnes. Engagés à Trappes. On était plus de 120 à nous réunir. C'est-à-dire qu'on a été débordés par le succès et la présence des trappistes qui ont vraiment soif de travailler ensemble et d'apprendre à se connaître. J'ai pas décidé de leur faire un discours politique de 2 heures où tout le monde est assis en randonnion et écoute poliment l'orateur. J'ai pris la parole 5 minutes pour leur dire: les gens qui sont intéressants dans cette salle, c'est pas moi, c'est pas les quelques élus qui m'accompagnent, c'est vous d'abord. Donc présentez-vous les uns aux autres. On a pris un verre les uns avec les autres en se présentant à ceux qu'on ne connaît pas. Et ensuite, on a travaillé autour de 4 grandes thématiques, bien grandir à Trappes, tout ce qui est politique de l'enfance, de la petite enfance, de la jeunesse, de l'éducation, la réussite à l'école. Il y a également s'épanouir à Trappes, les politiques culturelles, sportives, les politiques qui font qu'on trouve les services dont on a besoin dans une commune sans avoir besoin de faire 30 km. Les politiques d'urbanisme, sur le bien vivre à Trappes, le cadre de vie, comment on est une ville écologique, justement, on parlait de cela tout à l'heure. Et enfin, le bien vieillir à Trappes, parce qu'on oublie souvent nos aînés, surtout dans une ville comme Trappes, où 50% de la population a moins de 30 ans. On est une ville très jeune, mais on est aussi une ville avec énormément de personnes âgées, isolées, seules, souvent des femmes, veuves d'ailleurs, qui ont perdu leur conjoint, et qui vivent chacun les uns à côté des autres, mais qui ne vivent pas ensemble. Donc il faut penser le bien vieillir collectivement. Et en fait, pendant 2 heures, les habitants écrivaient sur les murs leurs idées, leurs projets, leurs aspirations, les besoins qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui. Et l'idée, c'est que dès le mois de décembre, on démarre un certain nombre d'actions. J'en parlais tout à l'heure, parce que toute la journée, j'ai le bonheur de croiser des gens qui portent ces projets et qui veulent aller au bout. Une personne qui va organiser une sortie au château de Versailles pour des enfants de Trappes, et qu'il fait à partir de cette réunion de l'association Cœur de Trappes. Donc on va mutualiser un conducteur de car bénévole qui va venir conduire un car, une compagnie de car qui va nous faire un tarif réduit, on va emmener des enfants en sortie culturelle juste à côté de Trappes. Versailles, c'est 10 km à vol d'oiseau. Mais vous avez énormément d'enfants de Trappes qui n'iront jamais au château de Versailles.
Ségolène Royal avait prophétisé la démocratie participative. On est en plein dans la démocratie participative.
Je crois que ces bonnes choses qui s'organisent, elles existaient d'ailleurs avant Ségolène Royal, mais elle n'avait pas tort. Elle n'avait pas tort. On ne pourra pas. Il faut arrêter ce discours de l'homme providentiel, des politiques qui décident tout à votre place. Ce n'est pas possible. Les habitants doivent s'organiser pour faire eux-mêmes. Et l'énergie qu'il y avait dans cette salle avec ces 120 trappistes réunis, et 120 trappistes, je vous passe les absents, ceux qui ont envie de continuer, ceux qui ont découvert après la réunion la dynamique qu'on engage et qui veulent nous rallier. Cette dynamique, cette énergie-là, je ne sais pas s'il faut l'appeler démocratie participative, mais c'est la vie réelle, quoi. C'est la vraie vie des gens qui habitent là et qui transforment leur ville et qui veulent que ça s'améliore. Parce que on peut avoir des journalistes qui passent, qui écrivent des bouquins sur la ville de Trappes ou des caméras de BFM TV qui viennent raconter, caricaturer notre ville. Mais la réalité concrète, on la vit tous les jours, on est fiers et heureux d'habiter une ville comme Trappes. On n'en a pas honte, c'est un vrai bonheur d'habiter là et on veut faire en sorte que nos enfants soient plus heureux encore que leurs parents.
L'invité de Pluriel est Ali Rabé, adjoint au maire de Trappes, chargé de la jeunesse et des sports, militant de Génération et président de l'association Cœur de Trappes. On se retrouve dans quelques instants.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie d'Ali Rabé, adjoint au maire de Trappes, chargé de la jeunesse et des sports, militant de Génération et président de cette toute nouvelle association Cœur de Trappes. Alors, en tant qu'élu de terrain, vous êtes interpellé par les habitants pour toutes sortes de sujets. Est-ce que être élu, c'est être disponible pratiquement 24 heures sur 24. J'ai vu que beaucoup de maires hésitaient à se représenter.
Bien sûr.
Il y a le blues des maires, dit-on.
Bon, déjà, tout dépend des élus, hein, on va se le dire. Il y a des élus qu'on ne voit pas, hein, ça existe. Y compris, il y a des maires qu'on ne voit pas forcément, qui considèrent qu'une fois élus, ils peuvent s'enfermer dans leur bureau et pendant 6 ans, assumer leur mandat et revenir un mois avant l'élection pour rendre compte. Moi, je ne conçois pas les choses comme ça. C'est une question de tempérament. Moi, je ne suis heureux. Je vais vous donner un exemple. La plupart de mes rendez-vous, je ne les fixe pas à la mairie. Et je les fixe dans les cafés de Trappes pour prendre un verre, un thé, chez un commerçant. On fait tourner le commerce local au passage.
Ce qui fait que vous avez rendez-vous avec une personne.
Et vous en avez trois,
passe,
mais vous avez tout compris.
Qui vous,
vous racontez ma vie tous les jours. Là. C'est ce qui m'arrive tous les jours. Je déjeune avec quelqu'un, j'en croise deux ou trois qui me demandent rendez-vous, je fixe des rendez-vous. Mais je pense que c'est bien d'être dans la ville. C'est mieux que d'être dans son bureau. On y fait de plus belles choses. Donc oui, être élu local, c'est être très, très, très disponible. Et on est interpellé sur tous les sujets, pas uniquement sur ceux de sa délégation, ce qui n'est pas toujours facile. Mais c'est là que le travail d'équipe a son importance. Et vous parlez des maires qui ne veulent pas se représenter ou qui démissionnent. Moi, je vous dis, quand vous êtes l'élu local, vous êtes responsable de tout. Absolument tout. Je vous parlais de Philippe Rio, le maire de Grigny, qui s'occupe également des charges de location des logements HLM, ce qui n'est pas son boulot à la base. C'est pareil pour n'importe quel élu de France, dans un petit village de 400 habitants comme dans une grande ville. Vous êtes responsable de tout, sauf que vous n'avez pas les moyens de faire tout ce que vous voudriez faire. Et de ce point de vue-là, moi je dénonce avec fermeté la politique irresponsable des gouvernements successifs, gauche, droite, aujourd'hui Macron, la nouvelle droite, qui fait la même chose, qui réduit les crédits affectés aux collectivités locales, qui diminue la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire l'argent que l'État nous donne pour faire fonctionner nos communes. Alors quand vous êtes maire, que les habitants ne vont pas aller interpeller le président de la République, ils ne vont pas interpeller le député, la plupart du temps ils ne savent même pas qui c'est dans ma ville, personne ne sait qui est la députée. Donc ils vont interpeller le maire et les adjoints au maire. Et vous devez rendre compte, alors qu'on vous retire des moyens, ça rend, franchement, ça rend dingue, tout simplement. Et je veux dénoncer à votre micro ces décisions prises tout en haut pour faire plaisir à la Commission européenne, pour faire plaisir à Bruxelles et réduire soi-disant les déficits, mais qui ont des conséquences tous les jours sur les habitants, les associations sportives, les écoles de nos villes, et ça, c'est dramatique.
Alors, je ne sais pas comment ça se passe à Trappes, mais dans de nombreuses villes de France, une partie des habitants se plaint du manque de réactivité des élus. C'est compliqué, une ville, puisqu'il faut aussi respecter les horaires de travail des fonctionnaires.
Bien sûr.
Si on dénonce des encombrants le soir, si on se plaint d'incivilité le week-end, on ne peut pas non plus faire travailler les fonctionnaires 24 heures sur 24. Est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas généré une forme d'impatience?
C'est une évidence. En même temps, c'est une formidable opportunité. Les guichets politiques, on va dire, éloignés des habitants et où il faut prendre rendez-vous un mois à l'avance, etc., c'est terminé. Moi, je pourrais vous montrer là, ça serait amusant, si on était à la télé, je le ferais, je pourrais vous montrer mon compte Facebook. Parce que j'ai le malheur d'être très présent sur Facebook. Le nombre de trappistes que je connais ou que je ne connais pas, qui m'écrivent sur Facebook pour me solliciter, pour me signaler une difficulté, qui vont sûrement réagir à cette émission pour beaucoup qui nous écoutent, et avec lesquels on règle des problèmes. On trouve des solutions, ne serait-ce qu'en mettant en contact deux personnes. Je vais vous donner un exemple. Lors du lancement de mon association, une maman qui est une femme formidable, dévouée, engagée auprès de ses enfants, qui consacre son temps et son énergie pour leur réussite, vient me voir parce qu'elle a une fille, elle aussi formidable. Je vais donner son nom parce que c'est une future star et elle portera les couleurs de la ville de Trappes et j'espère de la France aux prochains Jeux Olympiques. Elle s'appelle Nisrine Ebar. Retenez ce nom parce que c'est une jeune championne de France. Déjà deux fois championne de France à 16 ans.
On sera heureux de l'accueillir si elle nous entend.
Eh bien écoutez, en plus, elle a beau être timide, je la trouve très très forte sur les plateaux. Donc pourquoi pas. Donc une jeune femme de 16 ans, déjà deux fois championne de France de taekwondo et qui est une des étoiles montantes du sport français et dont on espère qu'elle portera les couleurs de la France aux Jeux Olympiques sur la discipline du taekwondo. Elle est inscrite en sport-études dans un pôle espoir spécialisé dans le taekwondo notamment. Et donc elle mène des études en parallèle de la pratique intensive de sa discipline le taekwondo. Les frais d'inscription pour cette maman sont relativement élevés. Elle n'a pas les moyens d'inscrire sa fille pour 3000 euros par an, la fédération payant les 3000 euros restants, chaque année, à chaque rentrée. Donc la ville lui apporte son concours pour l'aider à inscrire sa fille et à prendre en charge les frais d'inscription. Mais on ne peut pas prendre en charge la totalité. Elle m'interpelle parce que sa fille a des difficultés. Je suis désolé de parler d'elle. Elle m'entendra sûrement, elle m'en voudra, parce qu'elle est très modeste. Elle a des difficultés en mathématiques. Elle me dit, monsieur Rabès, est-ce que vous auriez dans vos contacts quelqu'un qui pourrait lui donner des cours de renforcement le week-end, parce qu'en semaine, elle est au pôle espoir, en mathématiques, je suis prête à payer. Moi, je connais la condition de cette famille, des familles trappistes en général. Il y en a qui sont prêts à payer 20-30 euros pour une heure de cours de mathématiques, pas forcément de grande qualité, et qui sont donc prêts à sacrifier l'essentiel, en tout cas, non pas le superflu, mais des choses absolument indispensables, pour que leur gamin réussisse à l'école. Mais je l'ai mis en relation ce soir même, le soir du lancement de l'association Cœur de Trappe, avec un ami personnel, un couple d'ailleurs, mari et femme, d'ingénieurs, qui ont des bacs scientifiques et qui ont fait des hautes études. Et ils se sont mis en relation avec elle, et dès le dimanche suivant, trois jours après, ils la recevaient pour lui donner des cours de maths, évidemment gratuits. Vous voyez, ce genre de connexion toute simple, c'est comme ça qu'on change la vie des gens. Et si Nisrine, d'ailleurs je lui mets la pression là à votre antenne, voit ses résultats progresser, elle saura qu'elle le doit à une autre famille trappiste.
Alors, vous nous avez présenté une étoile montante de Trappe. Trappe, votre ville, est connue pour être la ville d'origine d'Omar Sy, Jamel Debbouze, Nicolas Anelka, Rachid Benzine également, on le sait moins.
Absolument.
Des personnalités très appréciées. De grande valeur.
Vous oubliez Alain Degoy qui a révélé Omar Sy, Jamel Debbouze, qui est papy.
Le prof de théâtre.
Exactement, celui qui a en France popularisé
Jamel Debbouze,
l'impro.
Qui est toujours metteur en scène, qui a été d'ailleurs le metteur en scène de Rachid Benzine. Alors, il y a des ouvrages qui pointent du doigt le communautarisme qui serait présent dans votre ville, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Il y a aussi un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle Inch'Allah. Je ne sais pas s'il parle de Trappe, je n'ai pas encore lu.
Il parle uniquement de la Seine-Saint-Denis.
Est-ce qu'il faut changer l'image de Trappe et des villes de banlieue?
Excusez-moi, j'ai bu de l'eau, donc je m'étouffe. Oui, évidemment. Évidemment qu'il faut contribuer à changer Trappe et l'image de Trappe et de toutes les villes de banlieue. Et d'ailleurs, on est nombreux à essayer tous les jours de le faire. Toutes les initiatives dont je vous parle, pour valoriser la réussite scolaire notamment, pas uniquement la réussite sportive ou la réussite artistique. Moi, je suis très très fier qu'on ait des stars comme Lafouine, Omar Sy, Jamel Debbouze, Nicolas Anelka. Mais pour les gamins de Trappe, dans mon discours quotidien, je leur dis pas « devenez acteur à Hollywood, devenez humoriste ou devenez footballeur ». Je leur dis « faites tout ce que vous aimez faire dans la vie, du théâtre, de l'improvisation, du sport, mais accrochez-vous à vos études ».
Mais vous ne parlez pas des accusations qui visent la ville.
Si, j'en parlerai.
Comment on réagit à ce type d'accusations? Est-ce que certaines de ces accusations sont fondées? Est-ce qu'il y a de l'exagération?
Déjà, je trouve absurde qu'on soit dans des accusations qui visent une ville. Une ville, c'est complexe. Un territoire, c'est complexe. Trappe, c'est 32 000 habitants. C'est pas 500 personnes qu'on peut juger comme un collectif unique. Même dans votre famille, je suis sûr qu'on peut pas juger votre famille dans son ensemble. Il y a des personnalités dans une famille. Alors, dans une ville de 32 000 habitants, c'est évidemment le cas.
Et donc, la stigmatisation.
Il est assez insupportable d'être collectivement stigmatisé à chaque fois qu'on a un problème. Un exemple, pour montrer un peu où cette folie de la caricature peut aboutir. Cet été, nous avons eu un drame dans la ville de Trappe qui a attiré absolument tous les médias. Fin août. En plus, il se passe pas grand-chose en France fin août, donc tous les médias n'avaient que ça à faire. Le ministre de l'Intérieur est venu personnellement à Trappe parce qu'il y a eu un drame, un homme qui a tué sa sœur et sa mère à coups de couteau. Cet homme est connu pour ses antécédents psychiatriques. Il a été interné, il a tué des membres de sa famille dans le cadre d'un différend familial et c'est absolument insupportable. Et malheureusement, des drames comme ça, dans notre pays, on en connaît quelques-uns. Sauf que parce que c'est à Trappe, le ministre de l'Intérieur est arrivé en fanfare, tous les médias ont débarqué et nous ont fait la litanie pendant 24 heures de l'islamisation rampante à Trappe, etc., etc. Alors même que les faits n'avaient rien à voir avec l'islamisme ou le communautarisme. Donc vous voyez qu'il peut y avoir une perception publique, médiatique, qui est totalement faussée dès qu'on parle de communes comme Trappe. Maintenant, pour répondre au fond à des préoccupations qui sont réelles et que nous, on gère au quotidien. Ceux qui commentent, c'est facile, ils commentent à la télévision, ça dure une heure sur un plateau télé, puis après, ils retournent dans leur arrondissement parisien où ils sont confortablement installés et où ils ne croisent jamais ces problèmes dans la vie réelle. Nous, on doit gérer ça. On doit gérer, c'est vrai, des réflexes de la part de familles ou de communautés entières qui se disent « la solution se trouve dans ma communauté plutôt que dans ma ville ou dans mon pays », qu'ils se disent « je suis stigmatisé » ou « je me replie dans mes convictions religieuses, je me différencie du reste des Français parce que j'habite avec des gens qui me ressemblent ». Qui a choisi d'habiter la plupart des familles n'ont pas choisi d'habiter là. Qui a choisi dans les années 50, 60, 70 de parquer des populations entières de la même origine, de la même nationalité? À Trappe, par exemple, vous avez énormément de gens qui viennent de la ville d'Oujda au Maroc. Vous croyez que c'est un accident? Que tout d'un coup, les habitants d'Oujda, dans les années 60, se sont dit « on va émigrer, on va aller à Trappe ». Ses habitants ne savaient même pas que Trappes existait. Donc c'est malheureusement à l'époque les autorités, l'État français, les entreprises également qui recrutaient du personnel, qui sont allés chercher des populations, qui les ont installées et avec le temps ghettoisées sur quelques communes de notre territoire, sur une toute petite fraction de notre territoire. C'est de notre responsabilité collective, comme État, de casser ces ghettos. Et pour casser ces ghettos, il faut aussi casser les ghettos qu'on a juste en face de chez nous.
Les ghettos de riches,
c'est exactement. Ce que vous êtes en train de les dire, ghettos de riches, c'est tout à fait ça. Trappes, c'était 70% de logements sociaux il y a quelques temps. La rénovation urbaine portée par le maire de Trappes a permis de faire venir une population nouvelle, de diversifier, de créer un peu de mixité. Mais c'est en construisant des logements nouveaux à Trappes notamment, et en rénovant l'existant qu'on a pu le faire. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'on est juste en face de Trappes, juste en face?
Vous pensez à quelle ville, le Ménil-Saint-Denis?
Par exemple, je pourrais citer le Ménil-Saint-Denis, où nous sommes à un taux dérisoire de logements sociaux. Je pourrais citer Voisin le Bretonneux, où on pourrait construire considérablement des logements sociaux qui pourraient accueillir des trappistes, pourquoi pas, mais y compris des gens d'ailleurs. Tout le monde est éligible dans ce pays au logement social. 70% des Français sont éligibles au logement social. Et on ferait de la mixité dans toutes les villes. On ne réglera jamais le problème de Trappes uniquement à Trappes, même si on nous insulte matin, midi et soir à la télévision. On le réglera quand l'État, à travers notamment les préfets, feront le nécessaire, et les maires évidemment, pour construire du logement social partout et répartir la population pour qu'on ait cette mixité dont on a besoin, à commencer par nos écoles. Ce qui fait fuir notamment les habitants qui s'en sortent ou qui ont des revenus et qui ont la capacité à se déplacer, à acheter ailleurs, c'est la ghettoisation scolaire.
Donc la revendication des habitants de Trappes et d'autres communes semblables, c'est la mixité.
Tout le monde, matin, midi et soir. Vraiment toutes les familles. Jamais, jamais, jamais je n'ai croisé un trappiste qui me dit « mon but c'est de rester avec des gens qui me ressemblent uniquement ». Tout le monde désespère. D'ailleurs certains tentent de contourner la carte scolaire. D'autres payent. Encore une fois, on est sur des familles modestes qui se saignent pour payer une école privée à leur enfant. Tout le monde veut de la mixité dans son immeuble, dans sa cage d'escalier, dans son école. Malheureusement, cette mixité, elle ne peut pas se faire uniquement à l'échelle d'une ville. Nous, on a poussé les efforts au maximum. On est aujourd'hui à autour de 60% de logements sociaux, donc on a baissé en faisant venir des populations nouvelles. Mais pour aller au bout de la logique, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et d'organiser la mixité à l'échelle d'un département ou du pays tout entier.
Parlons des élections européennes, Ali Rabé. Le président Macron se veut le chef de file des progressistes. Face aux populistes en Europe, en mai prochain, vous redoutez une grande vague populiste partout en Europe et notamment en France?
Je redoute surtout qu'on nous enferme dans cette escroquerie, dans cette arnaque qu'est en train d'organiser Emmanuel Macron. Parce que qui met du carburant, on a commencé par le carburant, on va finir par là, qui met du carburant dans le moteur du Front National et des populistes et de l'extrême droite européenne? C'est la politique menée par Emmanuel Macron et par ses prédécesseurs. Il y a deux types d'ennemis de l'Europe. Moi, je suis un vrai amoureux de l'Europe. Je suis un vrai pro-européen. Dans le mouvement de Benoît Hamon, nous sommes pro-européens et nous le revendiquons. Nous sommes de gauche et pro-européens. Qui est l'ennemi de l'Europe? Vous avez ceux qui veulent détruire l'Europe au bulldozer. C'est Marine Le Pen, par exemple. C'est Matteo Salvini, c'est le président autrichien. Et vous avez ceux qui veulent le détruire, mais par petits bouts, à petit feu. Et pour moi, Emmanuel Macron, comme Nicolas Sarkozy hier, comme François Hollande lui aussi à certains égards, tue l'Europe à petit feu. Pourquoi il tue l'Europe à petit feu? Expliquer aux Français, qu'ils soient habitants de banlieue ou habitants dans un village reculé, que l'Europe, c'est réduire les subventions de l'État, fermer la petite ligne de chemin de fer qui permettait de se déplacer jusque-là et aux gamins d'aller au lycée. C'est ne pas attendre le moindre soutien de la Commission européenne quand on a besoin justement d'organiser la transition énergétique. C'est en gros n'entendre parler de l'Europe que pour du négatif, que pour les mauvaises nouvelles. Et c'est ça qui tue l'Europe à petit feu, et nous on veut sortir de ce débat mortifère et proposer des solutions. Au mouvement Génération, on rêve d'une Europe qui organise la sortie du glyphosate. Il y en a marre de manger du poison dans nos assiettes. Est-ce que demain, le projet européen, c'est pas de réussir tous ensemble, de la Roumanie à la Pologne, en passant par l'Estonie et par le Portugal, d'organiser, de se débarrasser collectivement de ces pesticides qui pourrissent notre alimentation? Est-ce que ce n'est pas de réussir à organiser ce qu'on a fait par le passé? On a été capable de fabriquer des champions européens pour Airbus, pour Ariane.
Le président Macron, vous considérez qu'il n'est pas écologiste sur le plan européen?
Ah bah c'est une plaisanterie. Genre, la démission de Nicolas Hulot, ce n'est pas un accident. C'est parce que Nicolas Hulot, il a mis le temps, hein, mais il s'est rendu compte de l'arnaque écologiste que représente Emmanuel Macron. Donc là, pareil, les Français s'en rendent compte et la manifestation de demain va l'illustrer. Tout le monde sait que c'est une arnaque écologique. Et donc non, le président Macron n'a rien fait et ne fera rien, rassurez-vous. Le projet d'Angela Merkel, d'Emmanuel Macron, c'est que l'Europe existe le moins possible finalement. Exactement comme pour Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Le Pen.
Alors, je vous entends, Ali Rabé, parler de l'Europe. Finalement, il n'y a pas de grande divergence avec Jean-Luc Mélenchon Et pourtant, vous allez aux européennes de manière séparée. C'est uniquement pour des questions de chapelle, d'ego.
Non.
Il y a quand même une divergence de fond.
Je crois que c'est sur cette élection, paradoxalement, au contraire, hein, qu'il y a le plus de désaccords. Autant on peut se retrouver sur le diagnostic et sur les propositions sur d'autres échelons, autant sur le niveau européen. Je vous disais, il y a ceux qui veulent tuer l'Europe à petit feu, et je suis assez stupéfait de constater qu'effectivement, dans le discours public de Jean-Luc Mélenchon, on a pu parfois entendre des intonations, des propositions, un discours qui ne correspond pas au discours historique de la gauche, qui est pro-européenne. Quand Jean-Luc Mélenchon dénonce le plombier polonais, le travailleur étranger qui viendrait manger le pain des Français, ça ressemble pas.
Il le dit de cette façon-là, vous êtes,
il l'a très clairement dit pendant la campagne présidentielle, en amont de la campagne présidentielle, il l'a très clairement dit sur ce ton-là, et d'ailleurs les vidéos existent. Mais il y a une petite musique, et autour de lui, certains de ceux qui l'entourent, notamment celui qui était son conseiller Europe, qui l'a désavoué, parce qu'on va faire un eurosceptique notoire, Djordje Kuzmanovic, ont un discours qu'on peut labelliser comme anti-européen. Donc là-dessus, nous voulons être clairs avec les Français. Il existe une autre Europe. Il peut exister une autre Europe. Il faut renvoyer dos à dos Emmanuel Macron et les souverainistes qui veulent tuer et casser l'Europe, soit à petit feu, soit immédiatement. Et il faut être clair. Et là, nous demandons à Jean-Luc Mélenchon, nous lui disons, à lui et à ses proches, de ne pas jouer avec l'élection européenne. On ne peut pas dire que l'élection européenne, c'est juste un référendum pour ou anti-Macron. On ne peut pas prendre le risque de jeter le bébé avec l'eau du bain. L'Europe n'est pas responsable de nos maux, c'est la Commission européenne. Ce sont les ultra-capitalistes qui assassinent l'Europe à petit feu.
C'est la raison pour laquelle Sarah Souali a quitté la France insoumise pour Génération, le mouvement de Benoît Hamon.
C'est ce qu'elle a en tout cas clairement dit, c'est qu'elle est dans une démarche et un discours clairement à gauche et clairement pro-européen. Et elle souhaitait adhérer et s'agréger à une dynamique citoyenne, celle que nous avons lancée pour les européennes. Et donc nous lui avons tendu les bras et souhaité la bienvenue. Mais effectivement, il y a de plus en plus, je crois, de voix et de personnalités qui doutent de la stratégie de la France insoumise pour les européennes. Et encore une fois, on ne peut pas avoir uniquement le cap des présidentielles en vue et se dire que les européennes ne sont qu'un passage obligé vers la présidentielle. Les européennes, c'est un enjeu en soi. Nous sommes à la veille de périls graves pour l'Europe. Des extrêmes droites sont déjà au pouvoir en Europe. C'est déjà le cas. C'est pas un risque, c'est déjà le cas dans plusieurs pays voisins. Si on veut pas qu'en France demain, Marine Le Pen soit le premier parti aux européennes, alors la gauche doit s'organiser et doit rompre avec le discours anti-européen.
Le 6 décembre, votre parti Génération tient un meeting au Cirque d'Hiver à Paris. Ce sera le lancement officiel de votre campagne pour les européennes ?
Absolument, c'est le premier événement majeur. Donc on réunira plus de 1000 personnes au Cirque d'Hiver pour lancer la bataille des européennes. On veut clairement se battre sur le terrain des idées. Parce qu'on croit que ça suffit de se dire telle tête de liste, tel homme providentiel, à lui seul va sauver la France, va sauver l'Europe et va nous débarrasser des dangers qui nous menacent. On va mettre en avant justement les figures diversifiées qui composent notre mouvement. Et on va dire aux Français, sur quelques idées fortes, voilà la perspective positive, l'espoir que nous voulons lever. Aux Français d'adhérer aux idées. J'en conjure les Français, vraiment. Beaucoup de ceux, et je le dis à ceux notamment qui, aux dernières présidentielles, ont voté... en se bouchant le nez, en se disant je ne peux pas voter avec mon cœur, je ne peux pas voter avec ma raison, parce que les sondages disent que ce sera Fillon contre Le Pen, et qui se sont retrouvés à voter parfois pour Emmanuel Macron, parfois pour Jean-Luc Mélenchon, en étant des hommes et des femmes de gauche, mais en se disant ça me permettra d'éviter le pire. Cessons de voter comme ça, et votons avec notre cœur, avec notre raison, pour les valeurs et les idées qui nous mobilisent. La classe politique a pris l'habitude de jouer avec les passions négatives des Français. Nous, on veut soulever les passions positives qui nous mettront en branle. Il n'y a rien de plus puissant que la force du peuple français quand il se lève. Aucun homme providentiel ne pourra jamais donner la force nécessaire à un projet européen. C'est celle que les Français peuvent lui donner, et c'est pour cela que nous les appelons dès le 6 décembre à s'engager sur la campagne des européennes.
Merci Ali Rabé. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Trappes, chargé de la jeunesse et des sports, militant de Génération et président de l'association Cœur de Trappes. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.